phrase choc qui claque, qui frappe, qui rime, qui sonne comme un uppercut, un coup de canon. KO debout, mot de combat pour corps à corps avec la langue, punch line.
Pascal Paradou.
Punchline n'est pas français et pourtant Julien Barré en fait un livre. Linguiste et grand amateur de rap, il publie le grand livre des punchlines pour nous prouver qu'elles sont partout et de tous les temps. Bonjour Lucien Barré. Lucien.
Julien.
Pourquoi Lucien? Pourquoi Lucien? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Lucien?
Je
Lucien,
sais pas.
Lucien, Julien.
Il y a quelque chose d'un peu monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Prénom de Bobo dans Lucien, retour l'antithèse de Kevin. Je sais pas.
Mais vous êtes absolument pas Lucien. Vous êtes donc Julien Barré, ouais. Excusez-moi. Avant de se lancer dans l'histoire, il faut peut-être se mettre d'accord sur la définition de la punchline, car dans le dictionnaire de l'Académie française, il n'y a pas de résultat pour cette recherche, me dit le site de cette vénérable institution.
En revanche, j'ai participé à énoncer la définition du Robert en ligne et on a dit que c'était une formule percutante destinée à marquer les esprits. Il y a trois choses dans cette définition. Le côté rhétorique de l'énoncé que constitue la formule, le son, le sens brièvement ramassé. Percutante, c'est le côté rythmique, sonore de la punchline, un peu comme sont sonores les répliques d'Audiard, par exemple, et le fait que ça produit un effet. Et c'est aussi ce qui est présent dans le côté marquer les esprits, le côté social, c'est qu'est-ce qui va rester, c'est quelque chose qui va marquer la punchline après qu'elle est survenue et qui va, dans les battles, dans les joutes oratoires, déclencher des exclamations d'admiration parmi le public.
Alors, je vais faire le naïf ou le Lucien, mais c'est un peu un bon mot, la punchline, en fait.
Oui, exactement. Donc, l'idée, le point de vue qui est le mien est rhétorique, c'est-à-dire que j'envisage le monde de façon achronique, sans être rivé à une période du temps. Je fais des comparaisons, tout est comparable à tout, ça c'est un mot d'Éluard. Donc, je prends la punchline ou le bon mot, le mot d'esprit, la réplique, la sentence, quelle que soit la manière dont vous la qualifiez, dont vous l'appeliez, en langue française depuis qu'elle arrive, mais en latin, en grec, et on pourrait élargir le spectre à toutes les civilisations. Ce phénomène, c'est celui de la forme brève qui a un impact sur l'interlocuteur.
Néanmoins, vous dites dans ce livre, Julien Barré, que cela va bien, ça sonne bien avec la société de l'immédiateté dans laquelle nous vivons, parce que finalement, un tweet peut être une punchline, ou une punchline, un tweet. En tout cas, c'est un symptôme d'une société qui va vite.
Exactement. Et ça sonne bien au sens propre, et ça, c'est un mot qui est bien formé. Tous les linguistes ne sont pas contre, par définition, avoir des anglicismes et des américanismes. Il n'y a pas de mot exactement équivalent en français, sinon j'utiliserai pas ce mot-là. Il y a cette idée d'analogie avec la boxe qu'on a connue avec Mohamed Ali dans les années 50-60, qui, avant de monter sur le ring, déjà terrorisait ses adversaires verbalement. On met un punch à la line. La line, c'est le vers, c'est la ligne. C'est la rime. Donc, il y a effectivement dans la punchline contemporaine une idée d'aller très très vite et de produire un effet immédiat, ce qui s'accommode bien effectivement des réseaux sociaux et de toutes sortes de phénomènes contemporains.
Donc le mot vient de la boxe, le mot vient du rap surtout aussi, non ?
Alors le mot vient de l'univers de l'humour. Il peut être repris aussi donc dans le stand-up, dans le rap, dans la boxe. Mais l'origine, je tiens beaucoup à faire une sorte de généalogie, historiciser, bon, je ne vais pas utiliser trop de mots compliqués, mais avoir une vue un peu historique, si vous voulez. À la fin du 19e siècle, à Montmartre, à New York, à Londres, s'invente une nouvelle forme de cabaret avec cette forme brève, c'est-à-dire aujourd'hui, aux États-Unis, en France, il y a des comedy clubs avec des line-up, entre guillemets, de comédiens. Cette forme du line-up, en fait, ce plateau comique s'est inventé à Montmartre et aux États-Unis. Et donc, il y a cette forme de vaudeville, de cabaret, qui arrive aux États-Unis. On appelle ça vaudeville. Et au début du XXe siècle, on définit, dans le monde de la comédie aux États-Unis, la punchline comme la chute qui arrive au terme de la réplique du comédien.
Donc c'est une américanisation de la société française aujourd'hui, si on entend beaucoup ce mot-là de punchline, mais ça prend sa source et ses origines dans l'histoire française. Comme beaucoup de mots d'ailleurs, qui sont
exactement,
des mots voyageurs.
Exactement. Et oui. Et c'est important de montrer que l'humour actuel, de même que les formes de l'oralité actuelles comme le rap et le slam, procèdent à la fois d'une exploration de la langue française qui trouve ses racines au Moyen-Âge, au moment où se forme la langue française, et évidemment est influencée par les États-Unis, mais par toutes sortes d'autres localités.
Mais y a-t-il, Julien Barré, un inventeur de la punchline ? Parce que je ne résiste pas à donner le sous-titre de votre livre, « De Sénèque à Necfeu ». Donc, jolie punchline, mais pour en goûter le sens, il faut connaître les deux. Ce qui n'est pas évident. Est-ce que ceux qui écoutent Necfeu lisent Sénèque et les lecteurs de Sénèque connaissent-ils Necfeu ?
Les amateurs de rap sont beaucoup plus cultivés qu'on l'imagine. Ils ont surtout les vieux amateurs. Alors eux, c'est encore un cas particulier parce qu'ils sont très réac et ils ont parfois des t-shirts. Le rap, c'était mieux avant. Mais les discussions entre amateurs de rap, entre stand-uppers, sont des discussions extrêmement techniques, des discussions sur la rhétorique de la punchline. En stand-up, ça va être prémisse ou set-up. On prépare le terrain avant ce contre-pied que constitue la punchline. Dans le rap, ils ne vont pas utiliser toutes les figures de style que j'utilise. De Sénèque à Necfeu, c'est une figure de style. C'est une anadiplose. On reprend la fin du mot pour l'utiliser dans le mot qui suit. Mais il y a énormément de figures de style dans le rap et tout un vocabulaire très précis de la rhétorique, de l'efficacité oratoire. Quant à Sénèque, c'est quelqu'un qui était critiqué dans la tradition rhétorique occidentale pour abuser des clausules. La clausule, c'est un terme rhétorique qui définit le terme d'un développement oratoire, d'une période oratoire. Et donc, d'un point de vue rythmique, rhétorique, la clausule qui termine de manière ramassée, percutante, un développement, a la même fonction que la punchline dans la définition que je vous ai donnée de l'humour aux États-Unis.
Donc ils inventent ensemble, ou presque à quelques siècles d'écart, la punchline.
Si vous avez un point de vue rhétorique sur le monde comme moi, on n'invente rien. Tout est partout appréhensible et envisageable d'une manière comparable, avec des invariants qui reviennent, comme par exemple le rythme et la rime, qui constituent pour moi les fondamentaux de la poésie orale.
Julien Barré, auteur du grand livre des punchlines, où l'on va puiser quelques idées, mais aussi quelques exemples pour les faire soi-même, puisque visiblement c'est possible. Mais auparavant, nous allons parler de poésie à l'occasion de notre rubrique « Ailleurs ». Ailleurs à Paris, pour une fois, nous restons en France pour évoquer le concours francophone de poésie. Bonjour Thierry Sajat.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Académie de la poésie française. Alors c'est une première ce concours et vous lancez aujourd'hui un appel à tous les poètes et toutes les poétesses en herbe. Tout le monde peut participer.
Absolument. Le concours est divisé en trois catégories d'âge, les 6-15 ans, les 16-25 ans et 26 ans et plus, bien sûr, sur le thème de la paix. Donc, un langage pour la paix, la poésie est un champ à notre humanité. Donc, nous lançons ce concours, effectivement, sous le double patronage des commissions nationales de France et de Côte d'Ivoire pour l'UNESCO.
Alors, tous les participants ont jusqu'au 30 juin pour envoyer un texte, mais vous l'avez dit, avec un thème imposé, un poème pour la paix. C'est inépuisable, c'est toujours d'actualité. Est-ce que ce n'est pas un peu trop convenu, ce thème ?
Non, je ne crois pas, parce que, hélas, on a toujours besoin de dénoncer ce qui ne va pas, effectivement, et la paix, aujourd'hui, peut-être plus, est importante. C'est un besoin également pour défendre notre langue, la langue française, vu que c'est un concours francophone, hein, bien sûr.
Mais est-ce qu'on peut inventer autour d'un thème comme celui-là ? Est-ce qu'on peut faire de la poésie inventive ou juste répéter ce qui a déjà été fait par Éluard, par exemple ?
Oui, bien sûr, mais non, je ne pense pas. Il faut l'inspiration pour créer. La poésie, c'est d'abord créer. Le poète s'inspire d'un sentiment de paix pour écrire ce qu'il ressent. Les premiers poèmes que nous avons reçus le démontrent très bien.
Vous avez reçu beaucoup de poèmes jusqu'à présent ?
plus de 350.
Ah oui, c'est pas mal.
Alors, absolument.
Vous voulez valoriser la langue française, vous l'avez dit aussi, mais de quelle langue s'agit-il ? C'est celle de Bouba, c'est celle de l'Académie française ou celle qui fait rimer yel avec miel ?
Oui, ben, je pense que c'est un peu les trois finalement, parce que ce concours est ouvert à la poésie classique, donc effectivement, il y aura les rimes, la poésie néoclassique et les vers libres également seront acceptés pour ce concours. Effectivement, c'est plutôt l'inspiration du poète, l'inspiration est grande, vous savez.
Est-ce qu'il y a des contraintes formelles ?
Non, pas du tout, sauf pour la poésie classique. Avec les règles de la prosodie, nous aurons des membres du jury qui pourront regarder cela, bien sûr.
Le jury se réunira à l'automne. Je crois que la remise des prix est prévue pour le 20 octobre. On gagne quoi à ce concours francophone de poésie ?
Pour le
20
octobre, nous gagnerons des anthologies de poésie. Nous gagnerons, il y aura des livres, il y aura des diplômes. Nous aurons avec nous une comédienne, Angélique Sion, qui dira tous les poèmes laurés. Nous publierons un livre où seront regroupés tous les poèmes retenus. Pas seulement les poèmes laurés, mais les poèmes retenus, qui ont retenu notre attention.
Les poèmes laurés, c'est la première fois que j'entends ça.
Oui, nous allons avoir des lauréats, voilà.
Et donc c'est l'adjectif
oui,
usuel.
Oui, tout à fait.
J'apprends quelque chose avec vous. Merci beaucoup Thierry Saja. Donc appel ouvert à tous et partout dans le monde. Il suffit d'écrire à l'adresse suivante. Académie Poésie Française en un seul mot, @gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter ou si besoin, vous pouvez retrouver l'adresse sur la page de l'émission. Merci beaucoup et vous nous donnez des nouvelles. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Je me souviens de ce visage d'enfant à l'esprit si sauvage. Un voyageur venu d'ailleurs, allumer le plus beau des feux, la lumière du plus beau des yeux vient du fond des yeux de l'enfant bleu, l'enfant bleu. Ni mes cheveux, ni ma peau, ni mes cheveux, ni ma peau, ni mes cheveux, ni mes lunettes sur mes deux yeux, ni mes deux vieux. J'avais plus peur que besoin d'eux, mais j'ai pris soin d'eux, fait de mon mieux, plutôt discret et silencieux. Je voulais juste qu'on m'aime un peu, que les filles me regardent comme elles regardent mon meilleur pote, la star du lycée. Un toubab qui met des pots de pêche et des duracs, des diamants sur les lobes. Je voulais juste qu'on m'aime un peu, que les filles me regardent comme elles regardent mon meilleur pote, la star du lycée. Un toubab qui met des pots de pêche et des duracs, des diamants sur les lobes, comme tous les rappeurs de l'époque.
Alexis sur RFI, nouveau titre de Luigi, rappeur français d'origine haïtienne. Il sort son second album, Saison 00. Julien Barré est aujourd'hui notre invité pour le grand livre des punchlines.
C'est Lucien Barré, bien sûr.
Mais non, Julien, il est moqueur. Donc, le grand livre des punchlines, qui, je dois rassurer l'auditeur, quand même, fait moins de 200 pages. Donc, c'est un grand livre relatif. Mais vous répertoriez quand même énormément de punchlines. En fait, c'est un champ lexical sans fin. Il n'y a pas de frontières. Vous côtoyez aussi bien le rap, le cinéma, la politique, la philosophie, l'humour, etc., etc.
Là, il y a 400 punchlines, 400 citations, répliques.
Dit-il le livre à la main.
Le terme dont vous usez, c'est la suite d'un petit livre qui s'appelait le petit livre des punchlines du rap, qui est plus petit, où il y avait 200 punchlines. Le principe de celui-là, c'est non seulement de faire une suite, mais au-delà, évidemment, comme vous l'avez souligné, d'élargir ce point, suivant ce point de vue rhétorique qui précisément est totalement décloisonné, c'est-à-dire pas se contenter ni se cantonner du rap, mais ouvrir à l'humour, la politique, la poésie, la philosophie, le cinéma avec les répliques d'Audiard. Tous ces énoncés-là, ils peuvent surgir dans plein de contextes différents et c'est marrant de voir comment ça fonctionne.
Alors, je pense que c'est un livre qui devrait surprendre certains profs de littérature ou de philosophie s'ils prennent soin de l'ouvrir, car vous citez Montaigne ou Pascal, qui est quand même le philosophe le plus rigoriste qui soit, comme des auteurs de punchline. Vous ne poussez pas un peu le bouchon ?
C'est une tradition. Alors, en France, il y a toute une tradition du fragment, de la forme brève, du mot d'esprit. Alors, le mot d'esprit, on connaît, ça a été mis en scène, par exemple, par Patrice Lecomte dans Ridicule. Mais il y a le mode de la pensée fragmentaire, celui des pensées de Pascal. C'est vraiment une forme d'expression qui est typiquement pascalienne et qui permet, par éclair, par... comment expliquer ça ? C'est à la fois pédagogique et didactique, élégant, et c'est la brièveté de la forme de la pensée pascalienne lui permet d'être accessible à beaucoup de gens.
Alors peut-être qu'il faut changer, cela dit, les manuels scolaires et dire que ces philosophes-là sont des auteurs de punchline pas des philosophes.
Pas du tout. Vous avez bien compris que j'utilise le mot punchline comme on fait un titre d'article dans Paris Match. L'analogie est très mauvaise, mais en gros, le titre recouvre quelque chose qui le dépasse de beaucoup. Je parle des sentences. Les sentences, c'est équivoque, c'est à la fois la sentence, ça peut être juridique, ça peut être une phrase en anglais, mais c'est un petit énoncé qui fonctionne, de réplique. J'utilise beaucoup d'autres mots. Et aussi, il y avait un latin qui s'appelait Martial, et lui, il a popularisé l'épigramme, qui est une forme de court poème. L'épigramme, c'est un genre aussi français. On a parlé de poésie à l'instant. La forme poétique la plus partagée du monde occidental, c'est le sonnet, qui aurait été inventé par Jacopo d'Alentini en Sicile. Mais l'épigramme, ça a fonctionné depuis les latins jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment de la poésie de circonstance. C'est un petit bout de papier que vous offrez un cadeau. Donc, et vous mettez un petit poème. Une épigramme de Martial. C'est presque de la joute oratoire de rap. Il s'adresse à un adversaire, un poète qu'il veut moquer. Et il dit « Les vers que tu nous lis, Crispinus, sont de moi, mais tu les lis si mal qu'on les dirait de toi. » Ça, c'est de l'épigramme d'il y a 2000 ans en latin.
Donc vous êtes l'auteur du grand livre des épigrammes.
Voilà.
Julien, Lucien, Barré.
Et des mots d'esprit.
Alors, je citais de mon côté Montaigne ou Pascal pour citer des monuments de la culture classique, mais dans votre histoire, vous remontez donc au latin, vous remontez aussi au troubadour et au rythme multisyllabique qui sont visiblement très en usage chez ceux qui font du rap.
Les rimes multisyllabiques. J'ai à cœur, dans mon premier livre qui s'appelait « Le rap ou l'artisanat de la rime », j'analysais l'ego trip, une nouvelle forme poétique, comme le sonnet, comme l'épigramme, sont des formes constituées. Maintenant, je développe dans les écoles ou ailleurs ce type d'atelier qui permet au second degré de s'auto-glorifier en utilisant le plus de figures de style possible. Bien, le rap actuellement, comme je vous l'ai dit, les amateurs de rap, quand ils parlent entre eux, comme les amateurs de stand-up, ils ont un vocabulaire extrêmement précis et technique pour qualifier les punchlines. Le rap invente des nouvelles rimes, en fait réactualise d'anciennes rimes en leur donnant des noms nouveaux. Par exemple, la rime multisyllabique qui n'est qu'une reformulation de la rime équivoquée ou semi-équivoquée des rhétoriqueurs. Les rhétoriqueurs, c'est après les troubadours, des poètes du Moyen-Âge. Par exemple, « j'persévère, façon persévère, le faux devient vert, il en persévère », ça c'est fab, ça fait une vingtaine d'années, c'est du rap, c'est de la rime équivoquée. Et la rime semi-équivoquée, ce serait non pas des mots totalement homophones. Là, donc, c'est des rimes qui riment totalement sur toute la longueur du mot. Mais en gros, le rap actuel multiplie les assonances, les allitérations et fait... Et c'est les Américains qui ont inventé ce terme de multisyllabique, c'est-à-dire que vous avez des rimes assez riches, approximatives, qui riment de syllabe à syllabe.
Donc ça, c'est la version médiévale de la punchline. Vous en voyez partout, hein, de toute façon, Cyrano de Bergerac, punchline, Alphonse Allais, punchline.
Alors Cyrano de Bergerac offre l'avantage d'avoir cette analogie entre la poésie et le combat, puisque quand il dit à la fin de l'envoi, je touche, il est à la fois en escrimeur et l'envoi qui correspond au poème qu'il est en train de faire.
Et puis Alphonse Allais, alors on pourrait citer, vous en citez une, partir c'est mourir un peu, mais mourir c'est partir beaucoup. Louise de Villemorin aussi, qui fut la compagne d'André Malraux, quand même grand écrivain, grand ministre et premier ministre de la culture, entre ici Jean Moulin. C'est une punchline ça, entre ici Jean Moulin? Non, hein. Et ça marque les esprits pourtant.
Ah oui, alors il y a plusieurs manières de définir la punchline. A priori, telle qu'on a cette discussion sur les figures de style, on peut la définir, mais souvent c'est a posteriori, donc on peut dire que c'est une réplique qui a marqué l'histoire, de la même manière que dans le débat Giscard d'Estaing contre Mitterrand, lorsque Giscard d'Estaing dit à Mitterrand en 74 « vous n'avez pas le monopole du cœur », est-ce qu'il l'a préparé? On ne sait pas, mais... C'était difficile de prévoir que ça allait prendre cette ampleur, et a posteriori, la popularité de cette réplique peut en faire une punchline.
Mais de toute façon, les débats présidentiels ont leur place dans votre livre, ouais. Julien Barré, parce que ça a été, et ce sont toujours des moments quand même de tension et d'invention lexicale et verbale. Vous citez ce débat de 81, il y a aussi celui de 88, quand Mitterrand ne cesse de s'adresser à Jacques Chirac en lui donnant du « Monsieur le Premier ministre ».
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Et ainsi, François Mitterrand se présentait en garant des institutions et des prérogatives respectives du chef de l'État et du Premier ministre. On est quand même à la limite de la punchline.
Oui, tout à fait. Et là, on est dans une interaction, on est dans un dialogue qui nous permet de ressaisir l'étymologie de la répartie. De la répartie qui consiste à repartir, à rebondir. Et j'ai parlé de la prémisse qui, dans la rhétorique humoristique, amène la punchline ou du setup. C'est-à-dire d'une exposition, d'une mise en place, eh bien, la mise en place, en général, c'est une réplique sur laquelle on rebondit. Et là, il suffit précisément d'être attentif à ce que dit votre interlocuteur. Et lorsqu'il y a quelque chose qui vous semble absurde qui a été énoncé, vous n'avez qu'à soit le tourner en dérision, soit le répéter, et soit tourner ça à l'absurde.
On reste dans le domaine du politique, Julien Barré. La preuve que le pape ne connaît rien à l'utilisation du préservatif, c'est qu'il l'a mis à l'index, qui est l'auteur de cette punchline.
Je peux vous dire quelle est la figure de style. Je ne sais pas, mais...
Quelle est la figure de style?
La figure de style, c'est l'usage du mot index dans un double sens, et donc une syllepse de sens qui est une forme d'équivoque avec une seule énonciation.
Et c'est André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, où nous sommes installés, qui a eu pendant de nombreuses années le prix de l'humour politique. Alors, on parle de politique, il faut parler de cinéma, vous l'avez d'ailleurs évoqué, avec ce nom qui brille au firmament du cinéma français des années 50-60, c'est Michel Audiard.
Vous êtes venu essayer de me flinguer?
Oui, maître.
Je ne voudrais pas l'argent. Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de job. Voilà.
Ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Extrait des Tontons Flingueurs, et bien sûr, c'est une formule d'anthologie, Julien Barré. Les cons, il y a aussi les cons, ça vole en escadrille.
Ouais, et il y a aussi si la connerie servait de mettre étalon. Ou si on mettait les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. un quart à la louche des punchlines, des répliques d'Audiard parlent des cons. Les cons, c'est un bon sujet parce qu'on est toujours le con d'un autre. Et puis, ça permet justement de rebondir. Je lisais tout à l'heure, parce que là, je termine un bouquin pour Le Robert qui retrace 50 ans d'humour à travers 500 répliques. C'était Christophe Alévèque qui disait qu'il fallait pas supprimer la connerie, puisque lui, il écrivait face à ça. C'était une source d'inspiration. Donc, je pense que Audiard, qui est dialoguiste, typiquement français, cette profession de dialoguiste qui n'existait pas vraiment ailleurs, qui est à la fois une culture très littéraire, proustienne, et en même temps, l'argot de la rue, les bars, tout ce qu'il entend au comptoir de ses copains. Il arrive à synthétiser ça de manière à la fois écrite et orale, et il faut que ça sonne, quoi. Il faut que ça résonne, et les cons à Ostou, c'est à ça qu'on les reconnaît. Tout le monde peut s'emparer de ce truc-là et la faire sienne.
Mais comment il travaillait, Audiard ? Donc vraiment, un dialoguiste de génie absolu. Y a-t-il un autre dialoguiste de ce talon-là aujourd'hui en France ? Je ne suis pas certain. Est-ce que vous savez comment il travaillait ?
Je pense savoir comment il travaillait, comment travaillent beaucoup de stand-uppers. Il y a Alexandre Astier qui, dans une interview, fait référence à Audiard. Et il a la même esthétique, si vous voulez, de la punchline. C'est déjà, il faut que ça sonne. L'important, c'est la musicalité, c'est le rythme, c'est le côté percussif. J'en ai parlé aussi dans une émission avec Yvan Le Bolloc. Et ça fait tac, 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 tac. C'est comme la règle de 3 chez les stand-uppers, c'est rythmé. Et alors, comment il fonctionne ? Je pense qu'il fonctionne comme les gens, j'anime des ateliers, donc j'essaye de donner des conseils aux gens qui voudraient écrire, mais en gros, écrire pour l'oral, écrire pour dire, ça suppose qu'on n'écrive pas comme on écrit traditionnellement, avec une feuille, un papier, un ordi, c'est vraiment d'écouter, c'est d'entendre. Donc je pense que son travail consistait à saisir au vol, dans la vie quotidienne, les phrases qui faisaient mouche et qui le faisaient le plus rire et qui avaient le plus d'effet, et arriver à introduire cette oralité qu'il a captée dans un dialogue qui obéit lui-même à sa logique propre de narration filmique, par exemple, ça suppose un art de la rhétorique et de l'écriture qui suppose justement de réintroduire dans le processus de l'écriture pour faire ressortir cette oralité qui marque et qui frappe.
Alors, comment écrire des punchlines ? Votre livre, le grand livre des punchlines, est un florilège de formules. Enfin, vous dites qu'il y en a 400, de Platon à Coluche. Si j'ai l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vivant, dit-il. Ouais. Mais il y a aussi alors, ce n'est pas des astuces, mais c'est une sorte de méthodologie pour écrire ces punchlines. C'est quoi ? C'est setup, prémisse, punchline. Vous l'avez déjà un peu évoqué, d'ailleurs.
D'un point de vue rythmique, dans le stand-up, on va vous expliquer que soit c'est en 3 temps, soit en 2 temps, mais en gros, il y a d'abord amener un sujet, avoir un angle sur un sujet, c'est le setup. Et il y a un humoriste qui s'appelle Louis C.K. et qui est très drôle, très spirituel, très vif, très mordant, dont on dit que parfois même le setup, parfois l'observation, alors que la punchline n'est pas advenue, est déjà hilarante. En 2 temps, observation, et ensuite trouver un angle, un contre-pied, et faire une surprise. Mais si on se place vraiment, on prend tout le répertoire qui existe des figures de style, on peut dire que un truc simple qui existe, c'est détourner des expressions. Et ça, on peut, en plus, détourner des expressions, c'est prendre un proverbe qui a traversé le temps avec toute sa charge de vérité générale. Par exemple, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. La version poétique de Grand Corps Malade, c'est l'avenir appartient à ceux qui rêvent trop. La version comique de Coluche, c'est l'avenir appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. La version rapologique de Aurel San, c'est « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche ». Ça, c'est un bon moyen, si vous voulez, détourner des expressions connues, parce que vous êtes sur un double tableau, vous faites une connivence avec le public, l'interlocuteur, tout en vous appropriant une vérité générale.
Donc, on peut faire des punchlines sans forcément connaître les figures de style, mais on les a intégrées inconsciemment. Ouais. Et on peut faire de l'anti-métabole sans le savoir.
L'anti-métabole, c'est la figure fétiche de Nekfeu. Mieux vaut avoir de sérieux amis que des amis sérieux. On est tous des Monsieur Jourdain, pour faire une référence à Molière, qui faisait lui de la prose sans le savoir. Mais nous, on fait de la rhétorique, on utilise des figures de style tout le temps. Et plus on est dans un registre populaire, plus on utilise des figures de style. Ça, c'était un académicien du XVIIIe siècle qui disait « On trouve plus de figures, il ne se fait plus de figures en une journée à la halle qu'en plusieurs jours d'assemblée académique. »
Donc, de Nekfeu à Sénèque, en toute façon, la punchline, c'est sérieux. On s'en aperçoit en vous écoutant. Merci beaucoup, Julien Barré. Le grand livre des punchlines de Sénèque, donc à Nekfeu, je le remets dans l'ordre, est publié chez First Edition. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Damien Roucou, Tiffany Menta à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur la plateforme de podcast Pure Radio.